jungle. Avant que les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour Afghanistan ici.
Mina doh kulu tanga ki gi mata chal narazi. Oui Allah, oui Allah.
Rebonjour à tous, à nouveau bienvenue à nos rencontres pour cette deuxième étape du Jungle Tour. On est là ici et maintenant tout de suite après avoir décoré, après avoir baptisé les quatre abris. Maintenant, je vous invite à discuter, enfin on va discuter ensemble pendant un petit moment du traité du Touquet et c'est Benoît qui va nous le présenter, nous en présenter les grandes lignes. Et Marc Boulnois, ici présent, qui est venu à vélo, maire de Noranfonte, est présent pour en discuter avec nous, donc allons-y.
Bon, alors, il paraît qu'on est là pour parler de quelque chose. Et il y a quelqu'un dans l'assistance qui a demandé qu'on fasse un débat sur la culture des betteraves entre 1910 et 1912 dans la région de Noranfonte. Ça vous va comme débat ?
Et en particulier sur la place des femmes dans cette culture et des Espagnols qui venaient migrer ici dans la région.
Déjà dès 1910.
Ah oui, oui. L'immigration dans les campagnes, on en connaît depuis des siècles.
Bon, on y va encore.
On y va sur le Touquet. C'est plus sympa de parler du Touquet.
Alors, on va effectivement parler du Touquet. Je vais, dans les grandes lignes, expliquer le traité, de quoi il s'agit, mais surtout parler des enjeux, parce que le traité en lui-même, c'est assez imbuvable. C'est beaucoup d'articles, etc. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a le traité en lui-même, qui date de 2003, et il y a eu par la suite un certain nombre, ce qu'on appelle en droit international, des arrangements entre États, qui sont en quelque sorte, en droit français, l'équivalent des décrets d'application du traité ou les modalités d'application du traité. Et vous allez voir que certaines des modalités d'application du traité du Touquet sont pires que le traité du Touquet lui-même. Alors d'abord, peut-être quelques mots sur le contexte. Donc entre tous les États frontaliers, il y a en général des traités qui précisent les modalités de gestion de la frontière. Le traité du Touquet n'est pas une originalité par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des traités équivalents entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Allemagne, entre le Danemark et l'Allemagne, enfin, etc., etc. Dans tous les États, entre tous les États, il y a des traités pour gérer la question des frontières, pour à la fois voir les questions de circulation des personnes, mais aussi de circulation des marchandises, enfin, etc. Rappelez que là, quand même, nous sommes au sein de l'Union européenne. Entre la France et la Grande-Bretagne, nous sommes au sein de l'Union européenne. Alors, normalement, au sein de l'Union européenne, il y a l'espace Schengen, l'espace de libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace Schengen, sauf que la Grande-Bretagne n'a pas adhéré à l'espace Schengen. Donc on est en dehors, Schengen qui date de 1990. Normalement, entre les États qui ont adhéré à Schengen, il n'y a plus de contrôle. Mais comme la Grande-Bretagne refuse d'adhérer à Schengen, il reste des contrôles entre la France et la Grande-Bretagne. Et paradoxe, c'est qu'en général, quand on parle de traité qui règle la question d'une frontière entre deux États, chacun des États, il se préoccupe de l'entrée dans son État. Et là, le traité du Touquet, pour la France en tous les cas, c'est avant tout une question qui concerne la sortie de la France. Donc beaucoup des traités qui sont actuellement en cours traitent de la question de l'entrée dans l'espace Schengen. Là, le traité du Touquet, c'est pour gérer la sortie de l'espace Schengen, ce qui est quand même assez paradoxal. Au sein de l'Union européenne, c'est complètement... Il n'y a pas d'autres exemples comme ça, au sein de l'Union européenne, d'un traité qui parle de la question de la sortie de l'espace Schengen. Alors, quand il y a traité, parce qu'il y a frontière. La frontière, bien sûr, c'est une barrière plus ou moins théorique entre deux États. Mais pour ce qui concerne l'immigration, c'est surtout, et ça qui est important, le premier endroit où un étranger, quand il passe la frontière, il rencontre une autorité de l'État dans lequel il arrive. Et donc, comme le droit international précise que quand on a normalement dans le droit international, un demandeur d'asile, il doit déposer sa demande d'asile vis-à-vis de la première autorité qu'il rencontre dans le pays dans lequel il arrive. Et donc normalement, quand on passe une frontière, un demandeur d'asile peut faire sa demande dès le premier douanier qu'il rencontre de l'autre côté de la frontière. Mais comme là, c'est une frontière un petit peu plus compliquée parce que c'est une frontière maritime, et puis c'est une frontière interne à l'Union européenne, et puis c'est une frontière de sortie d'espace Schengen. Donc il y a tout vraiment des cas particuliers par rapport à ça. Et cette question de la demande d'asile est importante parce que je rappelle que pour tout le monde connaît ici les règlements de Dublin, tout ce qui découle de règlement de Dublin, la possibilité, à partir du moment où on a été connu dans un pays, c'est là que va se passer la demande d'asile. Donc à partir du moment où on a rencontré une autorité de l'Union européenne, c'est au sein de l'espace Dublin, c'est là qu'on va demander la demande d'asile. Et si jamais on est pris dans un autre pays, on est renvoyé vers ce pays où on a eu la première fois rencontré les autorités du pays, en l'occurrence en se faisant arrêter. Donc c'est bien toutes ces questions-là qui sont derrière. Alors, ce qu'il faut savoir pour terminer l'introduction, c'est que le traité du Touquet n'est pas le premier traité entre la France et la Grande-Bretagne sur cette question-là. Avant, il y en avait un autre qui n'a pas de nom, qui a un numéro, qui n'a pas de nom, mais qui a un traité qui a été signé au moment de l'ouverture du tunnel sous la Manche pour régler la question des accords sur le traitement du passage de la frontière au moment pour ceux qui empruntent le tunnel sous la Manche. Et ce qui a été mis en place avec le traité du Touquet, que je vais exposer après, a déjà été fait à l'occasion de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Et par exemple, et vous allez voir, c'est une des premières dispositions du traité du Touquet, les contrôles se passent non pas à l'entrée dans le pays, mais à la sortie du pays. Donc, dans un sens, quand on va de la France vers la Grande-Bretagne, les contrôles se passent en France. Et quand on va de la Grande-Bretagne vers la France, les contrôles se passent en Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas ordinaire dans les manières de traiter les relations entre deux pays. Alors, donc le traité du Touquet, il date de 2003. Ce n'est pas tout récent, le traité du Touquet. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu récemment. Il date de 2003. Et donc, alors, je ne vais pas présenter tous les objets du traité, mais... Quelles sont les deux choses principales du traité qui a été signé le 4 février 2003 ? D'abord, donc, effectivement, c'est comment se passent les contrôles. Donc, avant, c'était vrai pour le tunnel. Maintenant, un étranger qui souhaite traverser le channel avec un ferry, il est contrôlé par la police française et par la police britannique dans les ports français. Et l'inverse est vrai. Mais comme il y a plus de trafic d'étrangers hors Union européenne dans le sens de la France vers la Grande-Bretagne, la question se pose surtout en France. Donc, ce qui veut dire concrètement que les policiers et les douaniers britanniques sont présents sur le territoire français et les policiers et les douaniers français sont présents sur le territoire britannique. Mais je vous prie de croire qu'il y a plus de douaniers anglais, enfin britanniques, chez nous que dans l'autre sens. Donc ça, c'est la première disposition du traité. Et bizarrerie de ce traité, il dit en clair que... alors si je prends dans le sens de ceux qui veulent passer de la... Parce que c'est vrai toujours dans les deux sens, hein, ceux qui veulent passer de la France vers la Grande-Bretagne, il dit que... Les contrôles, donc les gardes à vue éventuels pour vérifier les choses, la vérité des papiers, etc., sur le territoire français, est fait par la police britannique et pas par la police française. Et donc, mais cette délégation qui est confiée par la France à la police britannique, elle s'exerce pour tout, sauf pour les demandes d'asile. C'est écrit texto dans le traité. C'est-à-dire que un étranger, il va subir la police britannique pour vérifier ses papiers, pour regarder tout ça, mais il n'a pas le droit de lui demander sa demande d'asile. S'il dit « je veux demander l'asile », eh ben, le policier britannique, ça ne me regarde pas, allez voir le policier français. Et donc, ce qui veut dire que concrètement, dans ce système. Un étranger qui passe la frontière entre la France et la Grande-Bretagne ne peut pas déposer de demande d'asile auprès des autorités britanniques, puisqu'il va automatiquement relever les autorités françaises. Il ne pourra le faire que s'il a réussi à passer clandestinement et qu'il se retrouve de l'autre côté, sans avoir été vu par les policiers britanniques à la sortie du territoire français. Alors, ça, c'est les grands principes du traité. Puis après, il y a eu tous les arrangements. Alors, il y en a eu plusieurs, en 2009, en 2010. D'abord, première chose, c'est les questions de sous. Qui paye, par exemple? Parce que pour que des policiers britanniques soient sur le territoire français, il leur faut un local, il leur faut tout ça. Et bien, c'est dit que c'est l'État sur lequel ça se trouve qui paye. Ça veut dire qui paye les moyens de fonctionnement des policiers britanniques qui sont sur le territoire français, c'est la France. Mais comme et de la même manière de l'autre côté. Mais comme il y a plus de policiers dits britanniques en France, ça coûte plus cher à la France que ça ne coûte à la Grande-Bretagne. Et donc, c'est nos impôts qui payent la police britannique. Tout ça parce que, rappelez-vous, parce que la Grande-Bretagne a refusé d'adhérer à l'espace Schengen. Donc le fait que la Grande-Bretagne ait refusé d'adhérer à l'espace Schengen, c'est nous, Français, qui payons les policiers britanniques qui sont sur notre territoire. Et, petite chose un peu particulière, c'est ces policiers britanniques, ils sont dans les ports, hein, dans les ports de, pour ce qui concerne notre région, principalement de Calais, mais un peu de Boulogne et un peu de Dunkerque. Et il se trouve que ces trois ports, pour ce qui nous concerne, ils appartiennent au Conseil régional. Donc les infrastructures, c'est même pas l'État français qui les paye, c'est le Conseil régional avec les impôts des gens du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est pas réparti même sur l'ensemble du territoire français, c'est les gens du Nord-Pas-de-Calais qui payent le fait que les Britanniques ont refusé d'adhérer à l'espace Schengen. Pire, dans les arrangements qui ont eu lieu successivement, qui ont eu lieu par la suite, il y a eu des objectifs qui ont été fixés. Quand on dit, ça c'est du temps du gouvernement précédent français et britannique, ils se sont fixés ensemble, par accord, des objectifs. Des objectifs, il était dit, il faut qu'il y ait un nombre maximum d'étrangers à proximité de la frontière. C'est dit clairement dans les arrangements. Alors, le problème, c'est que les arrangements sont publiés, mais les objectifs ne sont pas publiés. Donc, les chiffres ne sont pas connus. Mais il est dit, dans un arrangement, que les polices, entre elles, se fixent des objectifs d'un nombre d'étrangers à proximité de la frontière. Donc ça veut dire que c'est la Grande-Bretagne qui dit à la France « Hey, faites attention, hein, vous avez trop d'étrangers chez vous. Hein. Donc débrouillez-vous, faites quelque chose parce qu'il y a trop d'étrangers chez vous. » Et puis, il y a des objectifs en matière de reconduite en dehors de l'Union européenne et d'arrestation. Il y a des objectifs d'arrestation d'étrangers qui sont fixés par les arrangements entre la France et la Grande-Bretagne. Voilà, dans les grandes lignes... ce qu'est le traité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est on fait porter, on s'organise pour que les contrôles ils aient lieu en France par rapport à la Grande-Bretagne, avec des moyens de fonctionnement qui sont pris en charge dans le pays où ça se passe, donc c'est en l'occurrence la France, et avec des objectifs de pression sur les migrants. C'est clairement dit comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne, effectivement, tous les problèmes financiers dont j'ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ça permet aussi de faciliter les questions de refoulement, puisque, de toute façon, comme on ne permet pas aux demandeurs d'asile, aux migrants, d'aller jusqu'à la demande d'asile, donc, à partir du moment où il n'y a pas de demande d'asile, ben, il y a expulsion. Il y a possibilité de reconduite à la frontière, hors de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on facilite, par un droit qui a été créé par ce traité, la possibilité, l'augmentation du non-accueil des étrangers en les refoulant avant même qu'ils aient pu faire leur demande d'asile. Et puis, de toute façon, d'une manière générale, ça concerne... C'est une atteinte au droit international, puisque je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit que Toute personne a le droit de quitter tout pays librement. Ça, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, y compris son pays, d'ailleurs. Donc, mais là, on empêche le fait de, non pas de rentrer, mais de quitter le territoire français. Alors, bien sûr, les conséquences sur les objectifs, ben, c'est là, quelque part, au-delà des politiques nationales de l'État français sur la gestion des étrangers, bah, ce traité est lui-même responsable du harcèlement policier qui a lieu sur Calais et sur ici et ou ailleurs. S'il y a du harcèlement policier, c'est une conséquence directe, une des conséquences directes du traité. Et bon, donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que j'ai dit l'essentiel là pour introduire le débat. L'un des regards aussi qui est porté par un certain nombre d'organisations sur ce traité, c'est que, je vous ai dit, ce traité, il est particulier puisqu'il est à la sortie de l'espace Schengen, à l'intérieur de l'Union européenne, etc., tout ça. Mais n'oubliez pas que les enjeux principaux, même si nous, pour nous, c'est des enjeux principaux, les enjeux principaux, ils sont ailleurs. Ils sont à l'entrée de l'espace Schengen. Ils sont entre la Turquie et la Grèce. Ils sont entre le Maroc et l'Espagne, entre la Libye ou la Tunisie et l'Italie, enfin, etc., etc. Et donc, dans l'un des arrangements a même été jusqu'à dire que l'on crée un dispositif qui pouvait être reproduit à l'extérieur de l'Union européenne. Donc ça veut dire que c'était le traité du Touquet a été institué à l'époque comme étant un modèle qui pouvait être une expérimentation qui pouvait être reproduite de manière plus importante à l'extérieur de l'espace Schengen. Parce que ça date de 2003. Depuis, il y a eu un traité d'ailleurs entre la Grèce et la Turquie. Je vais juste terminer. Je crois que sur la présentation, j'ai dit l'essentiel. Puis maintenant, place au débat. C'est clair que la plupart des associations d'aide aux migrants demandent la suppression ou tout du moins la renégociation du traité du Touquet, parce que en droit international, à partir du moment où il y a un traité entre deux pays, le supprimer, c'est extrêmement compliqué. Par contre, le renégocier et en renégocier la teneur, ça, c'est possible. C'est beaucoup plus facile. Donc, en droit international, supprimer un traité, c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, en rediscuter les termes et les modalités, ça, c'est quelque chose de relativement facile. Donc, on demande la renégociation du traité du Touquet entre la France et la Grande-Bretagne en demandant à ce que la France fasse pression sur la Grande-Bretagne pour que la Grande-Bretagne entre dans l'espace Schengen. Et donc, à partir du moment où la Grande-Bretagne va entrer dans l'espace Schengen, il n'y a plus de frontières, entre guillemets, entre la France et la Grande-Bretagne. Et on ne peut que souhaiter qu'il y ait une diminution des frontières. Et donc, ça va dans le premier sens. Et il se trouve qu'au moment où on a commencé à travailler sur cette question-là, en même temps, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais travaillait sur cette question-là. Avec quelquefois, parmi les motivations, vous avez compris aussi, il y avait la question financière qui était derrière. Mais le Nord-Pas-de-Calais, dans une délibération de la fin 2012, je ne sais plus la date, début 2013, a officiellement délibéré pour demander à l'État français de renégocier le traité du Touquet. Donc c'est vrai que là, on se rejoint entre le Conseil régional et les associations. Puis Marc, tu pourras dire au niveau des élus du territoire. Mais je pense qu'il y a un combat commun à mener pour faire en sorte de renégocier ce traité, parce que ce traité, il porte atteinte aux droits des étrangers, la possibilité de déposer la demande d'asile. Il porte atteinte tout simplement à la libre circulation qui est prévue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, j'ai la petite introduction moi, que je voulais faire pour lancer le débat, mais je sais pas s'il y a des questions techniques, mais Marc, tu peux peut-être dire un petit complément sur les positions des élus, notamment des élus hospitaliers.
Jungle, car les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour Afghanistan ici. Min doh kulu tanga ki gi mata chal narazi we yalla tukwacha taranga grani gi mata chal narazi we yalla tukwacha taranga grani gi mata chal narazi
دغرج لي ما دكلي بهر مرا بريك دي دغرج لي ما دكلي بهر مرا بريك دي.